Le débat du jour,
Céline Pellarin.
Bienvenue dans votre débat sur RFI. Ce soir, on s'intéresse à la Cour de justice de la République, la CJR. Cette cour est la seule juridiction compétente pour juger les crimes et les délits perpétrés par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Et si on reparle de la CJR, c'est à cause de son verdict dans le procès de Christine Lagarde. La directrice du Fonds monétaire international a été reconnue coupable le 19 décembre par la CJR de négligence alors qu'elle était ministre de l'économie. Et ce, dans l'arbitrage qui opposait Bernard Tapie au Crédit Lyonnais. Elle est condamnée mais dispensée de peine, une décision qui a relancé le débat sur l'existence de cette juridiction d'exception. D'ailleurs, une pétition réclamant un vrai procès pour Christine Lagarde a recueilli plus de 200 000 signatures depuis le 19 décembre et à 4 mois de l'élection présidentielle, les candidats à la fonction suprême se saisissent de cette polémique, chacun de se déclarer ou pas pour la suppression de la Cour de justice de la République, et c'est une question posée presque à chaque fois que la Cour se réunit pour en discuter. Mes invités ce soir sont Denis Barranger. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit public à l'université donc Paris 2. Vous êtes l'auteur de Parlementarisme des origines aux éditions PUF et d'un Que sais-je, le droit constitutionnel toujours au PUF. Également présent avec nous par téléphone, Hervé Guyader. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat au barreau de Paris et docteur en droit et vous êtes également président du comité français pour le droit au commerce international. Et donc on va débuter ce débat en peut-être avec monsieur Barranger pour peut-être vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est la Cour de justice de la République, sachant que toute personne, je cite, qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement peut saisir une commission spéciale de la CJR.
Alors voilà, la Cour de justice de la République, c'est une juridiction spéciale, une juridiction d'exception. En ce sens qu'elle ne juge qu'une catégorie de personnes, c'est-à-dire les membres du gouvernement, pour une seule catégorie de faits, c'est-à-dire des crimes et délits accomplis, dit la Constitution, dans l'exercice de leurs fonctions.
Alors, la CJR, la Cour de justice de la République, elle est composée à majorité de femmes et d'hommes politiques, des parlementaires, 6 députés et 6 sénateurs, qui jugent des ministres. Je vous pose la question à tous les deux, on n'a pas un problème de séparation des pouvoirs, là? Peut-être Monsieur Barranger?
On a une confusion volontaire des pouvoirs sur ce point-là, parce que ça a été voulu comme ça en 1993. On a voulu à la fois que les membres du gouvernement soient pénalement responsables selon le droit commun, mais en même temps que l'organe qui les jugeait soit un organe qu'on peut appeler échevinal, paritaire, peu importe, dans lequel il y avait des parlementaires. On a parlé d'équilibre entre le judiciaire et le parlementaire. Donc c'est tout à fait volontaire de la part du constituant d'avoir procédé ainsi.
Un équilibre entre les pouvoirs, pas de confrontation entre les pouvoirs. Hervé Guyader, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je trouve qu'effectivement, il y a un problème fondamental dans la composition de la Cour de justice de la République. On pense que déjà, elle est composée d'un nombre très important de parlementaires qui n'ont pas vocation à être des spécialistes en droit. Et puis surtout, effectivement, Montesquieu doit se retourner dans sa tombe. Il paraît totalement invraisemblable d'être de la séparation des pouvoirs, de pouvoir... faire que l'exécutif puisse être jugé par un autre corps qui est le législatif. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Ça brouille les gens, ça donne toujours des décisions qui sont contestées. Sont-elles parfois contestables? Ça ne donne pas une vision très 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 claire de la justice. Mais il faut quand même comprendre derrière ça que je pense que la fonction essentielle de la CJR est d'être le symbole de ce que la justice passe partout et pour tous.
Oui, mais alors, justement, sur cette justice partout et pour tous, on n'a pas un souci en ce qui concerne une justice d'exception qui ne juge que des ministres pour les faits qu'ils ont commis lorsqu'ils étaient en exercice, pour des ministres qui ne le sont plus peut-être maintenant, comme ça a été le cas pour Christine Lagarde. Justice partout, mais pas pour tous, parce que les justiciables français ne sont pas jugés à la même enseigne.
Alors il faut reconnaître que les résultats sont pas très bons de la CJR. Il y a une série de précédents problématiques, dont le cas de Madame Lagarde, le jugement de Madame Lagarde n'est que le dernier. Absence de peine pour Edmond Hervé en 1999, relax partiel de Monsieur Pasqua en 2010, mais relax total pour l'affaire du casino d'Annemasse. Peine très modérée pour Monsieur Gilibert pour des faits graves un petit peu plus tard. Peut-être que la justice passe partout, mais elle ne passe pas de la même manière.
Hervé Guyader, est-ce que vous pensez que ce sont des décisions laxistes ?
Absolument pas. Moi, je considère que le politique a une fonction distincte des autres, du commun des mortels, je dirais. La fonction politique impose parfois d'avoir un peu d'audace, de prendre des risques, d'accumuler une masse de travail très importante. Pour moi, la faute politique ne peut se sanctionner que dans les urnes. Je vois mal comment, à part dans des cas où le droit pénal est clair, mais dans l'espèce de Madame Lagarde, rappelez-vous, le procureur avait requis le non-lieu à poursuivre, il a requis ensuite la relaxe, donc le dossier de Madame Lagarde est totalement creux. C'est un procès politique. On a juste voulu la sanctionner par-delà elle-même sanctionner Sarkozy. Il n'y a rien de pénal, de véritablement pénal dans le dossier. Donc c'est ça qui, moi, me heurte un peu. C'est que le droit pénal est très absent de ce procès. C'est un procès strictement politique. Ce qui fait qu'effectivement, on peut très bien considérer que le sujet est traité de façon assez laxiste, mais quand on regarde les faits et rien que les faits, l'incrimination est extrêmement fragile. Alors, est-ce que Mme Lagarde a commis
une épisode ? Denis Barranger qui opine du chef, alors je n'étais
pas
d'accord avec
négativement.
Ça.
Je n'opine pas parce que je ne suis pas tellement d'accord. Dans l'affaire de Mme Lagarde, il est problème, l'infraction de négligence, l'incrimination de négligence, elle est douteuse. Dans l'affaire du casino d'Annemasse ou de l'affaire Pasqua en 2010, c'était clairement pénal. À supposer qu'on puisse reprocher quelque chose, les accusations étaient clairement pénales. Dans beaucoup d'affaires devant la CJR, les infractions étaient purement et simplement pénales. Ce qui arrive simplement, c'est qu'il y a à l'évidence un environnement politique à l'affaire, des problèmes politiques et gouvernementaux qui sont posés, et puis aussi une difficulté à juger. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut peut-être pas être trop sévère avec la CJR, même si moi je pense qu'il faut la supprimer, mais pour ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant... Il y a une difficulté sérieuse à juger. Il y a un problème sérieux de preuve. On n'est pas obligé de témoigner devant la CJR. Il y a des co-accusés qui sont pas présents, même comme témoins. Monsieur Stéphane Richard a décidé de pas témoigner. Mm-hmm. Donc la CJR était pas pleinement informée.
Le
patron d'Orange, voilà, qui est par ailleurs, je crois, poursuivi devant les juridictions correctionnelles. Donc c'est des affaires complexes. Il y a une opacité. Je crois pas qu'il y a rien de pénal là-dedans. Je crois qu'il y a une présence du politique qui est très forte et il y a une difficulté à juger, qui fait que la CJR me semble un peu moins bien équipée que le serait le juge ordinaire.
Alors en tout cas, cette décision n'a pas été contestée par l'avocat de Christine Lagarde, maître Patrick Maisonneuve, que l'on écoute.
Elle est reconnue coupable partiellement, mais je constate qu'elle n'est condamnée à rien. C'est-à-dire qu'on a estimé qu'elle ne devait être condamnée à aucune peine, puisqu'elle est justement dispensée de peine. Alors, c'est vrai que nous aurions préféré une relaxe pure et simple, mais encore une fois, il faut bien comprendre que la Cour a décidé de ne pas condamner Madame Lagarde à une quelconque peine, ajoutant même d'ailleurs qu'elle n'aurait pas de casier judiciaire sur son casier judiciaire français.
Voilà, maître Maisonneuve au micro RFI de Franck Alexandre. Maître Maisonneuve, satisfait de cette décision de justice. Après cette décision, justement, on a eu au niveau populaire, dans les médias ou les réseaux sociaux, d'ailleurs, beaucoup des réactions qui disaient « mais justice à deux vitesses ». D'ailleurs, on le disait un peu plus tôt sur l'antenne des RFI, il y a une pétition qui réclame 200 000, qui a plus de 200 000 signatures et qui réclame un vrai procès pour Christine Lagarde, donc dans un tribunal correctionnel ordinaire. Est-ce que vous pensez, Denis Barranger, qu'elle aurait dû être jugée devant une cour un tribunal ordinaire ?
Si le droit constitutionnel avait été différent, oui, elle a été bien jugée par la bonne juridiction de la bonne manière selon le droit applicable. Probablement, en 1993, quand il y a eu l'affaire du sang contaminé, il y a eu cette cote mal taillée de la CJR. On a créé cette juridiction hybride qui applique le droit commun, mais avec des juges spéciaux, avec un privilège de juridiction, disaient les techniciens. Mmh. Donc au fond, moi je suis pas très étonné qu'il y ait une émotion dans l'opinion publique. Il faut pas se plaindre qu'il y ait une perte de confiance dans les politiques et par ailleurs qu'il y ait un privilège de juridiction et tout de même des peines très faibles dans des cas qui peuvent paraître, je connais pas les faits en particulier, mais qui peuvent paraître graves. Faut pas s'en étonner.
Ouais, parce que là justement on parle d'une justice à deux vitesses. La classe politique se protège d'elle-même, c'est une des critiques envers cette cour de justice de la République. Hervé Guyader, est-ce qu'on peut se dire que par exemple supprimer la CJR, est-ce que cela pourrait responsabiliser les ministres et contribuer peut-être à redonner un petit peu de crédit à la parole publique?
Je pense pas. Je pense au contraire, mon expérience me conduit à penser que les politiques garçons, quand ils commettent des infractions, sont très sévèrement traités dans l'ensemble du déroulé de la procédure. Les politiques sont exposés à la vindicte populaire, sont exposés à des considérations extrêmement dures, et considérer, de façon un peu populiste, que les politiques ont trouvé un habile moyen par un privilège de juridiction de s'extraire du commun est totalement faux. Être politique et être dans les mailles de la justice est extrêmement douloureux. Et au titre des institutions, je continue à penser que la séparation des pouvoirs rend impossible le fait d'attraire un politique devant un juge ordinaire.
Denis Barranger, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Politique, c'est un terme flou. Quand on est maire et qu'on est responsable pénalement, individuellement, oui, on est puni très sévèrement. Quand on est ministre, on profite d'un privilège de juridiction et voilà le résultat. On voit comment la CJR a jugé. Je trouve qu'on ne peut pas dire qu'ils sont très sévèrement réprimés. C'est pas
alors
vrai.
Là, dans la sanction de la CJR, c'est une sanction contre Christine Lagarde qui est finalement une condamnation morale, vu qu'il n'y a pas de sanction effective. La Cour parle de mauvais choix politiques.
C'est pas
moral,
c'est une condamnation. C'est pas une sanction morale, elle a été condamnée, simplement. C'est pas assorti d'une peine. Il y a une véritable condamnation pénale. Oui. Un jugement moral, par exemple, c'est quand on dit Monsieur Pasqua s'est mal comporté en 2010, alors même qu'il était un homme d'État. C'est quand on reproche certaines choses à certains politiques dans certains procès devant la CJR. Madame Lagarde, elle a été effectivement condamnée. Sans peine particulière, donc ça dépasse la sanction morale.
Tout à l'heure, on parlait donc avec vous, avec Guyader, de ce symbole de cette cour de justice qui est partout, cette justice qui serait partout, mais est-ce que le symbole serait pas plus important de juger les ministres comme les autres justiciables de son juridiction spéciale, de dire effectivement la justice est partout, pour tout le monde, la même?
Non, parce que la fonction de ministre est une fonction qui est différente d'une toute autre fonction. Ça expose à devoir prendre des décisions extrêmement difficiles, à avoir des visions prospectives, avoir de l'audace, à prendre des risques. Un ministre n'est pas simplement un haut fonctionnaire qui applique une directive. Ça n'est pas du tout la même chose. On se rend pas compte que le poids que porte un ministre a vocation. Enfin, le bâtonnier Sicard, mon confrère, disait il y a quelques jours sur d'autres zones qu'il fallait qu'un avoir conscience du poids que portent ces gens-là et qu'il fallait donc leur permettre de pouvoir agir. Si vous les exposez à ce que chacun puisse aller saisir la CJR parce que d'un point de vue politique ils seront opposants et considéreront que telle ou telle décision leur aura été préjudiciable,
il faut qu'il y ait un filtre pour justement agir.
Il y a un filtre. Il y a la commission d'enquête, il y a déjà un filtre pour 25 recours par an ou quelque chose comme ça, il y a une ou deux affaires qui viennent devant la CJR, donc ils sont effectivement protégés. Moi, je suis pas du tout hostile à la commission des requêtes ou à un filtre préalable, ça il me paraît indispensable. Ce que je crois, c'est que derrière cette affaire, il y a quelque chose qui transcende le cas de Madame Lagarde et qui transcende la distinction entre responsabilité politique devant le Parlement et responsabilité pénale devant les juges. C'est qu'il y a un lourd dysfonctionnement gouvernemental. Ça paraît assez clair. Je connais pas les faits en particulier, je ne sais que ce que dit la presse, mais il semble assez évident qu'il y a eu un problème avec cet arbitrage, qu'il y a eu une difficulté importante à résoudre, que c'est une décision qu'une seule personne ne prend pas. D'ailleurs, on dit seulement dans la décision de la CJR que Madame Lagarde a posé sa griffe. Enfin, c'est à peine un acte personnel de Madame Lagarde.
On rappelle quand même que dans cet arbitrage Tapie, Bernard Tapie a empoché 405 millions d'euros de la part de l'État, dont 45 millions d'euros au titre d'un préjudice moral. Donc, c'est un montant qui n'avait jamais été atteint.
Croyez-moi, c'est pas courant.
Voilà, jamais atteint.
Peu de préjudice moral, c'est significatif.
Oui, non, pardon. Mais, enfin, si je peux
Biedère,
intervenir,
oui.
Il y a deux choses. Il y a la décision qui consiste à attribuer le dossier à un arbitrage. Décision qui est, tous les spécialistes de l'arbitrage sont tous unanimes pour dire que juridiquement il n'y avait aucune impossibilité à le transmettre à un arbitrage. Maintenant que l'arbitrage, quelques années plus tard, ait été rendu dans un sens ou dans un autre, avec fraude ou sans fraude, est totalement indifférent de la décision initiale de le confier à un arbitrage. L'arbitrage était très simple. Madame Lagarde, qui était quand même une grande avocate, a considéré qu'il fallait une justice rapide pour un dossier complexe. Et tous les spécialistes de l'arbitrage savent que, effectivement, l'arbitrage permet de rendre en un an ce qu'une justice ordinaire rendrait en 10, 15 ou 20 ans.
Alors, on va revenir à la Cour de justice de la République. Avec cette question, donc, Hervé Guyader, vous êtes pour qu'on conserve cette Cour. Alors, elle a des défauts, mais selon vous, elle est nécessaire et quelle amélioration pourrait lui apporter pour qu'elle soit pleinement efficace?
Elle est nécessaire parce qu'elle permet, finalement, c'est un symbole. Elle permet de donner le sentiment aux gens que les...
Un symbole qui coûte cher, quand même.
Pas... Oui, elle coûte cher. Très honnêtement, elle coûte cher et elle ne sert pas à grand-chose.
Oui, parce qu'elle a jugé que 5 affaires depuis 1993.
Elle a rendu très peu de décisions. Elle ne sert pas à grand-chose. C'est un symbole fort de ce que les ministres ne sont pas au-dessus des lois. Maintenant, au titre de l'amélioration, finalement, j'en vois assez peu. La procédure est totalement décriée. Mais comment l'améliorer? Si, peut-être. Le fait que le procureur général, dans l'affaire de Mme Lagarde, est requis non lieu à poursuivre et que derrière il y a un procès, bafouer les ministères publics ne semble pas être une idée fondamentalement intelligente.
Je voudrais revenir un mot sur la question de l'arbitrage. Ça n'est quand même pas une affaire qui plaide pour la pertinence de l'arbitrage dans de tels cas. La sentence a été déclarée frauduleuse par la Cour d'appel de Paris. Elle est jugée choquante par la CJR, approximative, univoque, terme violent. Enfin voilà, disons, peut-être que l'arbitrage peut être utile dans certains cas. Je pense que dans l'affaire Tapie-CDR, c'est pas prouvé.
Et sur la CJR?
Sur la CJR, moi je pense qu'il faut la supprimer. Je pense ce qu'a dit la commission Jospin en 2012, c'est-à-dire suppression de la CJR, on garde une commission de filtrage et c'est les juges ordinaires qui jugent. Il y a un très gros problème au fait que des parlementaires jugent des ministres, comme l'avait dit François Colcombet, qui avait été député et magistrat et qui avait été membre de la CJR. Ce sont des gens qui connaissent les gens qu'ils jugent, qui vont peut-être devenir ministres eux-mêmes, qui pensent que ça peut leur arriver. Ça crée une atmosphère mauvaise. Monsieur Jospin, du moins, la commission Jospin, qu'on ne peut pas accusé de méconnaître les problèmes de l'État et du gouvernement, avait dit il y a un problème d'impartialité objective. On ne peut pas mieux dire, ce n'est pas d'impartialité subjective. Il y a une atmosphère problématique en termes d'impartialité objective. Je pense vraiment qu'il faut supprimer la CJR. On ne prend pas ce chemin, parce que les réformes constitutionnelles sont difficiles dans notre pays.
Alors justement, voilà, parce qu'il faut bien rappeler aux auditeurs que pour supprimer la CJR, il faut en passer par une réforme constitutionnelle. Est-ce que cette procédure qui est lourde rebute les autorités depuis plusieurs années? Est-ce que c'est ça?
Alors il y a une tentative de le faire. Après le rapport Jospin, il y a eu une tentative en 2013 de déposer une loi de réforme constitutionnelle. On sait que il n'y a pas été donné suite. On sait par ailleurs qu'un des grands problèmes du quinquennat Hollande, ça a été la réforme constitutionnelle et que grosso modo, il n'avait pas vraiment de projet. Il n'avait de toute façon pas les 3/5 au Congrès et encore moins envie de passer par le référendum. Donc les choses sont congelées pour le moment. C'est aussi simple que ça.
Une réforme constitutionnelle, est-ce que c'est possible dans les prochaines années, selon vous, Hervé Guyader?
Non, je participe. Je partage, l'avis de M. Barangin. Le référendum est très compliqué dans la mesure où on ne répond jamais à la question qui est posée. Quant à l'idée de réunir le Congrès et d'obtenir le quorum des 3/5, encore faut-il avoir déjà une majorité forte et puis surtout la volonté et le courage politique.
Alors est-ce que c'est un des serpents de mer de la politique, toujours évoqué, jamais appliqué? Là encore, pour la prochaine élection présidentielle, il y a 4 candidats qui demandent sa suppression. Il y a Jean-Luc Benamias, il y a Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Valls. François Hollande, on le rappelle déjà quand il était candidat lui-même en 2012, avait proposé de la supprimer. Voilà, et déjà en 2007, voilà. Donc à chaque fois, c'est vraiment un serpent de mer, la suppression de la CJR. Est-ce que c'est une façon de dire aux foules, de dire aux citoyens, nous voulons une justice pour tout le monde, la même?
On le dit déjà depuis longtemps, il faudrait maintenant le faire. Je pense quand même qu'il arrivera un jour où la perte totale de confiance dans les gouvernants, dans les partis, dans la politique, aboutira à des catastrophes graves. On n'est pas très loin de ça.
Et c'est la fin de ce débat déjà. Merci à mes deux invités, Denis Barangé, professeur en droit public à l'Université Paris 2. Et puis merci également à Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Vous étiez au téléphone. Merci à Hélène Avril à la réalisation, à Florence Ponce et Sigrid Azéroual pour avoir préparé ce débat à mes côtés. Demain, Facebook, Twitter. Peut-on lutter contre la désinformation?